bonjour à chacun. Nous reprenons ce matin notre série sur Moïse, après les quelques semaines d'interruption qui correspondent à la fin de l'année. Et nous reprenons à la suite du texte de la dernière fois, où il était question de la première rencontre entre Moïse et Pharaon. Et je vous invite à la lecture de quelques versets qui sont le début du chapitre 7 dans le livre de l'Exode, versets 1 à 13, et je lis ce matin dans la Bible à la colombe. Exode chapitre 7, versets 1 à 13. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes, mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel le leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils s'adressèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous parle et vous dit, fais un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Cela deviendra un reptile. » Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon. Et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs, et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers, et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons, qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. Dans le passage de ce matin, il est à nouveau question de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Verset 3, « Et moi j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. » Verset 4, « Le Pharaon ne vous écoutera pas. » Verset 13, « Le cœur du Pharaon s'endurcit, et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. » J'avais annoncé quand il en avait été question, au chapitre 4, que nous aborderions ce sujet de l'endurcissement du cœur de Pharaon un petit peu plus loin dans la série, quand il en serait à nouveau question, et c'est le moment de le faire. Beaucoup le savent, ou sans doute, le sujet est difficile à manier. Nous avons d'un côté Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon. Il en est question à 10 reprises dans le livre de l'Exode. Et puis nous avons en face de cela Pharaon qui endurcit lui-même son propre cœur. Il en est question directement à 3 reprises. Et à ces 3 occurrences où le sujet du verbe est Pharaon, sont généralement associés et crédités à Pharaon 6 formes passives de ce verbe que l'on trouve aussi dans les récits, où il est dit « le cœur du Pharaon s'endurcit ». Le sujet n'est pas défini, c'est ambigu, mais c'est généralement attribué à Pharaon. ce qui nous donne grosso modo 10 et 9, autant de textes qui disent que Dieu a endurci le cœur de Pharaon que de textes qui disent que Pharaon a endurci lui-même son cœur. Quel est le problème ? Le problème, c'est que cette action d'endurcir le cœur ne peut être réalisée que par une seule personne. Il n'est pas possible que Dieu et Pharaon soient à la fois auteurs et responsables de cette action. C'est l'un ou l'autre. Éventuellement, c'est l'un après l'autre, mais pas les deux à la fois. Parler de l'endurcissement du cœur de Pharaon, c'est donc chercher une logique entre deux affirmations de l'Écriture apparemment contradictoires. C'est chercher un équilibre entre deux réalités apparemment inconciliables, à savoir la souveraineté de Dieu et la responsabilité de l'homme. En effet, comment un acte souverain de Dieu pourrait-il être de la responsabilité de l'homme et vice-versa? La difficulté consiste donc à déterminer qui est responsable. En d'autres mots, qui est l'auteur de l'endurcissement du cœur de Pharaon? Dieu ou Pharaon? Si c'est Pharaon qui endurcit son cœur, pourquoi cela est-il parfois attribué à Dieu? Si c'est Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon, pourquoi est-il dit parfois que c'est Pharaon qui endurcit son cœur? Notons, pour souligner la complexité de la question, qu'il y a en réalité non pas un verbe comme en français « endurcir », mais trois verbes en hébreu qui sont utilisés pour décrire à des degrés divers cet endurcissement. Malheureusement, toutes les traductions ne le font pas ressortir en français. Par exemple, la Bible à la colonne que j'ai utilisée ce matin traduit invariablement ces trois verbes par le seul verbe « endurcir ». La Nouvelle Bible Second, elle, va chercher à traduire chacun de ces verbes avec les nuances qui les caractérisent. Et ainsi, vous verrez dans la Nouvelle Bible Second, dans la Bible Semeur, etc., qu'il y a d'autres traductions: s'obstiner, s'entêter, être ou rester obtus. La question qui nous intéresse est donc celle de la détermination du responsable de l'endurcissement du cœur de Pharaon. C'est une question qui peut peut-être vous paraître anodine, mais qui en réalité ne l'est pas du tout. Elle ne l'est pas parce qu'elle touche à la question du libre arbitre de l'être humain. L'homme a-t-il toujours le choix de ses actions? Est-il toujours libre de faire tout ce qu'il veut? Ou bien est-il parfois contraint d'agir sous la main souveraine de Dieu? Dieu court-circuite-t-il parfois le libre arbitre de l'homme? L'action souveraine de Dieu empêche-t-elle parfois l'exercice de son libre arbitre? Et puis, comment expliquer dans la Bible et dans le livre de l'Exode en particulier la confluence, l'assemblage des desseins divins et de la responsabilité humaine? Comment est-ce que tout cela s'articule ensemble? Il y a deux axes de compréhension possibles en réponse à cette dernière question: comment est-ce que tout cela s'articule ensemble? Ou dit autrement, comment concilier ces deux affirmations apparemment contradictoires sur l'endurcissement du cœur de Pharaon? Le premier axe consiste à comprendre que Dieu entérine la décision de Pharaon. Ici, Dieu ne fait que réagir à la décision de Pharaon. Et il va confirmer cette décision en endurcissant à son tour le cœur de Pharaon. L'endurcissement du cœur de Pharaon ne serait donc ici pas voulu par Dieu, mais seulement prévu. Et Dieu donc n'endurcirait que ceux qui se sont endurcis auparavant. C'est un peu la compréhension classique de ce texte et de cette problématique. Cette compréhension, en tout cas, est souvent acceptée et acceptable aux yeux de beaucoup. Que ce soit l'homme pécheur qui endurcisse son propre cœur, ne pose pas vraiment beaucoup de problèmes. Et dans cette compréhension des choses, on va chercher généralement à montrer qu'elle se vérifie dans le texte par la chronologie des événements. Et ainsi, on souligne à juste titre que les textes où Dieu endurcit le cœur de Pharaon, pas les textes où il annonce qu'il va le faire, mais les textes où il endurcit le cœur de Pharaon viennent après les textes où Pharaon a endurci son propre cœur. Ce qui va dans le sens, donc, de cette première compréhension. La deuxième compréhension, le deuxième axe, consiste à comprendre que c'est Dieu qui est à l'initiative de l'endurcissement du cœur de Pharaon. Pharaon endurcirait son cœur parce que Dieu l'a souverainement décrété. Cette compréhension, elle est généralement plus difficile à admettre. Pourquoi ? Parce qu'elle implique que le libre arbitre de l'homme ne serait finalement pas si libre que ça. Quelle est la bonne compréhension des choses ? La première option est arrangeante. Elle supprime la plus grande partie des difficultés. Mais est-ce pour autant la bonne compréhension ? La deuxième option nous dérange. Elle nous dérange et elle soulève des questions difficiles. Elle laisse à penser à certains, par exemple, que l'endurcissement du cœur de Pharaon serait finalement quelque chose d'injuste, puisque c'est imposé à Pharaon. Est-ce le cas ? Maintenant que le problème est posé, j'aimerais dans cette troisième partie apporter quelques éléments, différents éléments, pour nous aider à avancer dans la compréhension de cette réalité de l'endurcissement du cœur. Et j'aimerais tout d'abord définir plus précisément notre sujet. Qu'est-ce que l'endurcissement du cœur ? De quoi parle-t-on quand on parle d'endurcissement du cœur ? Que ce soit le cœur que Dieu endurcit ou le cœur que Pharaon endurcit lui-même. De quoi parle-t-on ? Être dur théologiquement ou avoir le cœur dur théologiquement ou spirituellement parlant, c'est simplement être insensible à Dieu. C'est être insensible à sa parole et insensible à son œuvre. C'est avoir le cœur fermé à Dieu et à son action. Ça peut se résumer par l'expression « avoir un cœur de pierre ». La personne endurcie est alors dans l'incapacité de répondre à Dieu, aux sollicitations de Dieu, et ne peut donc pas entrer en relation ou dans une relation de salut avec lui. Ceci dit, endurcir, quand on parle de Dieu, ne veut pas dire réprouver. Et ça, c'est une précision qui est très importante. Endurcir ne veut pas dire réprouver. La réprobation, qu'est-ce que c'est ? C'est le côté négatif, si vous voulez, de la prédestination. Je le dis avec d'autres mots. L'endurcissement du cœur par Dieu, ce n'est pas une initiative divine qui prédestinerait à la perdition. Comme s'il y avait une élection pour la perdition. Comme il y a une élection pour le salut. Quand l'homme endurcit son cœur, il commet un péché. puisqu'il se détourne de Dieu, puisqu'il ferme son cœur à Dieu. Mais quand Dieu endurcit un cœur, il juge le péché. Il sanctionne le péché de l'homme impénitent. Et ça m'amène à dire quelques mots sur la question du jugement de Dieu, et en particulier du jugement de Dieu en lien avec l'endurcissement du cœur. Le jugement de Dieu, c'est une notion dont on ne parle pas beaucoup, une notion qu'on n'aime pas beaucoup, et pourtant qui est très présente dans la Bible. Ceci dit, nous n'avons pas à chercher des excuses à Dieu quand nous parlons de ses jugements. Nous n'avons pas à le justifier. Nous n'avons pas à être gênés pour Dieu parce que sa parole nous révèle qu'il juge. Dieu sait ce qu'il fait, que nous le comprenions ou pas, que nous l'approuvions ou pas d'ailleurs. Il est Dieu et nous sommes ses créatures. Il est au ciel, dit le psaume, et il fait ce qu'il veut. La Bible est claire sur beaucoup de choses, et en particulier sur le fait que l'homme est pécheur et qu'il est sous la condamnation de Dieu à cause de son péché. La Bible est claire aussi sur le fait que Dieu est saint et qu'il a en horreur le péché. Péché, c'est agir en dehors de la volonté de Dieu. C'est agir comme si Dieu n'avait rien à dire sur l'action que je suis en train de commettre. C'est agir sans tenir compte de ce que Dieu dit sur cette action. Et ainsi, chaque péché est un affront que je fais à Dieu et à sa souveraineté. La Bible est claire encore sur le fait que le péché ne peut pas rester impuni aux yeux de Dieu et qu'il appelle un jugement de sa part. Ce jugement s'exercera en grande partie lors du jugement dernier, mais pas seulement. Déjà maintenant, dans l'histoire des hommes, Dieu exerce parfois ses jugements sur les hommes pécheurs. En fait, le pécheur est sujet à la colère de Dieu du moment qu'il pèche, du moment qu'il désobéit à Dieu, du moment qu'il refuse de se soumettre à sa volonté. Et ainsi, Dieu peut exercer son jugement sur l'homme pécheur à n'importe quel moment de sa vie, s'il le décide. C'est son droit, c'est sa prérogative. La Bible est claire encore et toujours sur le fait que Dieu est souverain dans ses jugements. Il juge le pécheur non seulement quand, mais aussi comme bon lui semble. La Bible est claire enfin sur le fait que les jugements de Dieu sont justes. S'il nous arrive de comprendre les jugements de Dieu comme injustes, c'est que notre vision des choses est alors déformée par notre propre péché et limitée par notre propre finitude. La réalité, telle que la Bible nous la présente, c'est que le pécheur mérite la mort et le jugement de Dieu, car le salaire du péché, c'est la mort. Et ce n'est que par grâce. Et que parce que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés, qu'il laisse vivre le pécheur. Alors quel est le lien entre le jugement de Dieu et notre sujet? Le lien, c'est que l'endurcissement du cœur des hommes, qui s'oppose à la volonté de Dieu, est une des manières par lesquelles Dieu les juge. Prenons un exemple qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. « J'entendis le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je ? Qui ira pour nous ? Je répondis, je suis là, envoie-moi. C'est Ésaïe qui parle. Il dit alors, Dieu dit à Ésaïe, va dire à ce peuple, écoutez toujours, mais vous ne comprendrez rien. Regardez toujours, mais vous n'apprendrez rien. Engourdis le cœur de ce peuple, rends-le dur d'oreille et ferme-lui les yeux, de peur qu'il ne voie de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, que son cœur ne comprenne, qu'il ne revienne et ne soit guéri. On n'aime pas trop ces textes. Ici, Dieu se sert du ministère de son prophète Ésaïe pour endurcir le cœur de son peuple, comme un jugement, parce que ce peuple s'est détourné de lui. Je vous invite à regarder ça dans le contexte du début du livre d'Ésaïe et vous verrez que cela est très clair. Et Jésus va citer ce passage dans les évangiles. Il va le citer à quel moment ? Il va le citer pour appuyer son enseignement en parabole. Pour appuyer son enseignement en parabole, qui était incompréhensible pour la plupart des contemporains de Jésus. Et nous voyons là que l'enseignement par les paraboles était une forme de jugement de Dieu sur les contemporains de Jésus. Ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. L'apôtre Jean va lui aussi citer ce texte d'Ésaïe dans son évangile. Pour expliquer quoi ? Pour expliquer pourquoi tant de gens qui avaient vu les signes, les miracles que Jésus avait faits, se détournaient néanmoins de Jésus. Il cite Ésaïe 6 pour expliquer cela. Et puis l'apôtre Paul aussi va citer ce texte à la fin des Actes des Apôtres. Quant à lui, il va trouver dans l'incrédulité des Juifs de Rome l'accomplissement de ce texte du prophète Ésaïe. C'est acte 28. Tous ces exemples que nous ne pouvons pas détailler maintenant sont, me semble-t-il, clairs. L'endurcissement du cœur des hommes qui s'oppose à la volonté de Dieu peut être une des manières dont Dieu les juge. Et donc, je propose que nous comprenions l'endurcissement du cœur de Pharaon de cette manière-là. Il est temps de nouer la gerbe, comme on dit. Que dire de l'endurcissement du cœur de Pharaon ? Comment le comprendre ? Et donc, premièrement, je dirais que quand Dieu est à l'initiative de l'endurcissement du cœur de Pharaon, il le fait pour porter un jugement sur Pharaon et sur son péché. Un jugement que l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, va reconnaître comme souverain. Romains 9. Les chapitres 9, 10 et 11 de Romains sont particuliers. Je vais en citer quelques extraits, ça sera peut-être l'occasion de relire après l'ensemble de ces passages qui parlent beaucoup d'Israël. « Que dirons-nous donc ? » dit Paul. « Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? » « Certes non. » « Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je ferai miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Ainsi, Dieu, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Endurcir pour juger. Que dire de l'endurcissement du cœur de Pharaon? En plus d'être un jugement souverain de Dieu, l'endurcissement du cœur de Pharaon par Dieu est aussi un moyen d'accomplir sa volonté, d'accomplir son plan pour son peuple. Dans les versets de Romains que nous venons de lire, j'attire votre attention sur le verset 17. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. Dieu s'est servi de Pharaon pour montrer sa puissance et pour que son nom soit publié sur toute la terre. Et Paul explique ici que l'endurcissement du cœur de Pharaon par le dessein providentiel de Dieu, pour faire éclater sa gloire et pour accomplir son plan. Et dans le même passage, un peu plus loin au chapitre 11, et dans la même logique, Paul va parler d'un autre endurcissement. Il va parler de l'endurcissement d'Israël. Et il va le citer et montrer que c'est aussi un moyen pour Dieu d'accomplir sa volonté. Laquelle ? Celle de permettre l'entrée des nations, l'entrée des païens dans l'Église. Romains chapitre 11, verset 11. « Je dis donc, ont-ils trébuché ?» Il est question ici de ceux d'Israël qui ont été endurcis. « Ont-ils trébuché afin de tomber ?» Certes non. Mais par leur chute, le salut a été donné aux païens. Celle de permettre l'entrée des nations, des païens dans l'Église, celle de permettre, pour reprendre l'image que Paul utilise dans ses chapitres, que les branches de l'olivier sauvage qui correspondent aux païens soient greffées sur l'olivier à la place des branches naturelles qui ont été retranchées et qui correspondent à l'endurcissement d'Israël. Endurcir pour accomplir sa volonté. Et puis endurcir, mais pas définitivement. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces chapitres de Romains, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Par contre, cet exemple d'Israël dans ces chapitres 9 à 11 nous permet de dire quelque chose d'essentiel sur l'endurcissement du cœur. L'endurcissement du cœur n'est pas forcément un état définitif. Il peut être inversé par la grâce de Dieu. L'obstination spirituelle d'Israël, qui est caractérisée par son endurcissement, provoqué par Dieu, n'est pas présentée dans ces chapitres de Romains comme un état permanent et définitif. Ceux qui ont été endurcis, dit Paul, ceux qui ont été retranchés, ne sont pas tombés définitivement. S'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, dit-il, ils pourront être à nouveau greffés, réintégrés dans le peuple de Dieu. Romains 11, verset 23, « Eux de même, en parlant de ces branches retranchées, de cette partie dont le cœur a été endurci. Eux de même, s'ils ne demeurent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau, de nouveau. » Je crois personnellement qu'en endurcissant le cœur de Pharaon, Dieu lui a toujours laissé la possibilité de se repentir. Mais Pharaon a choisi d'endurcir son cœur et il a choisi de continuer à endurcir son cœur. Que se serait-il passé s'il s'était repenti ? pouvait-il se repentir? Le cœur endurci peut-il se repentir? Par lui-même, non. Par la grâce de Dieu, oui. Personne ne peut de lui-même changer son cœur. Mais Dieu peut le faire. Et si nous ne répondons pas oui à cette question, nous avons un véritable problème avec le salut. Parce que nous sommes tous, au départ, avec un cœur endurci, un cœur qui est fermé au Seigneur. Et si nous pouvons nous tourner vers Dieu, c'est par la grâce de Dieu. À nous, donc, il est impossible de faire ces choses, mais à Dieu, oui, par l'action de son Esprit, par sa grâce, nous pouvons répondre à l'exhortation, à l'appel de Dieu et à l'exhortation qui se trouve dans l'Épître aux Hébreux que j'aimerais lire maintenant. C'est une citation du psaume 95. On en connaît bien, on connaît bien une partie de ce texte qui fait référence à cette période dans le désert où le peuple s'est détourné, s'est révolté de Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Aujourd'hui, en parlant à ses contemporains qui étaient eux aussi peut-être à deux doigts de l'apostasie, à deux doigts de tourner le dos au Seigneur, il dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. » Et je saute au verset 12. « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur méchant et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous avons été rendus participants du Christ, si du moins nous retenons fermement jusqu'à la fin notre assurance première, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. La bonne nouvelle du salut en Jésus, c'est que Dieu peut remplacer notre cœur de pierre par un cœur de chair. Et d'ailleurs, c'était une des promesses que Dieu avait faites à Israël quand il avait annoncé la nouvelle alliance. Une nouvelle alliance qui a été établie par Jésus. Je prends le texte d'Ézéchiel 36, où Dieu dit, en parlant de cette nouvelle alliance, « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Si nous sommes déjà en Jésus par la foi, alors Dieu a déjà accompli ce miracle en nous. Il a déjà remplacé notre cœur de pierre par un cœur de chair. Mais nous devons néanmoins toujours veiller à ce que notre cœur ne s'endurcisse pas. Parce que c'est notre nature, notre chair, notre vieille nature qui est ainsi et qui nous tire toujours dans cette direction-là. Si vous n'êtes pas encore en Jésus par la foi, alors Dieu peut accomplir ce miracle en vous aujourd'hui. Il peut le faire maintenant, si vous venez à lui en reconnaissant votre besoin de lui, votre besoin de sa grâce. Parce qu'aujourd'hui est encore un jour de grâce, un jour où Dieu nous offre son salut. Un jour où Dieu nous offre sa grâce, un jour où Dieu nous tend la main. Aujourd'hui, dit la parole de Dieu, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme Pharaon l'a fait, mais recevez sa grâce. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.